nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Le même goût que lui, mais malheureusement ces lieux et les personnes qui y voient le dégoûtent et se dégoûtent. Le père ne va plus le voir, il a compris que son fils le rejetait et il était dégoûté de lui. Mais Pierre, malgré lui, l'attend toujours, à la même heure, dans sa chambre. Il ne sait pas pourquoi, peut-être que malgré lui, les caresses de son père lui manquent. Pierre va une fois par semaine passer la soirée chez Jean, et c'est sa seule vraie distraction. Ils sont devenus amis, mais n'ont pas recommencé leurs choses, parce que Jean a de l'estime pour Pierre, et il ne veut pas lui faire de la peine. Ils parlent, peinture, musique, font la dinette. Jean lui raconte les troubles qu'il a en voyant certains garçons. Pierre lui dit, « Moi ?» Je n'y arrive pas. Jean lui dit, c'est parce que tu vas dans des endroits, tu devrais chercher ailleurs. Mais où ? Jean hausse les épaules. Et moi alors ? Pierre sourit, lui dit, toi tu es mon ami, je ne veux pas te faire de mal. Du mal ? Mais comment tu me ferais du mal ? Pierre hausse les épaules. De toute façon, il y a mon père entre nous. Je le sens toujours près de moi. Lorsqu'on me touche, ça me glace. Jean lui demande, il te touche toujours ? Non, ne va plus dans ma chambre, mais je le sens encore. J'ai l'impression que je suis maudit, que je suis perdu, que jamais je ne serai heureux. D'ailleurs, toute ma famille est comme ça. Jean lui donne un baiser sur la joue. Maudit ou pas, je t'aime. Pierre n'arrive pas à écrire. Ses pensées sont trop sombres. Alors, il ne fait rien. Ou dessine sur des feuilles blanches à l'encre de Chine des choses abstraites, sombres, noires. Des dessins géométriques qui deviennent de plus en plus compliqués et ne ressemblent à rien. Des visages qui s'assombrissent de plus en plus. Des maisons, des arbres, tout est sombre. Touffu, et cauchemardesque. Il marche beaucoup l'après-midi, va vers les quais de Saône et cherche des visages, des corps. Il sait qu'à certains endroits, pour un peu d'argent, tous ces jeunes gens, au corps amolli, le dos au mur, le regard vague, il sait que ces gens le regardent passer, mais lui fait celui qui ne les voit pas. Un après-midi, qu'il marche au hasard dans une rue, il s'entend interpeller. Hé, hé ! Il se retourne, voit un jeune homme de loin, pense que ce n'est pas pour lui, continue son chemin. Tout à coup, il entend courir derrière lui. Il se retourne et voit un jeune homme de taille moyenne dans les 19 ans, cheveux blonds qui ondulent, visage sympathique, habillé d'un costume noir. Le jeune lui dit « Bonjour, tu ne me reconnais pas ?»« Non. » Tu m'as sucé derrière l'opéra un jour. Pierre ne voit pas, mais trouve le jeune sympathique. Le jeune lui dit, tu me donnes de l'argent? Combien? Le jeune aux ses épaules lui dit, viens, on va dans une allée, j'ai l'habitude. Pierre, sans réfléchir et sans avoir envie, le suit. Je ne sais même pas pourquoi il le suit, la tête vide. Il suit le jeune homme qui le mène dans une allée. Là, au fond de l'allée, se trouve une porte. Il ouvre et fait entrer Pierre. C'est un petit espace vide. Le jeune se met au fond et dit à Pierre, « Viens, approche. » Pierre ne bouge pas. « Tu me donnes combien ?»« Je ne sais pas. Pas tout parce que je dois faire une course. »« Allez, donne. Je te sucerai. Tu verras, ce sera très bien. » Pierre lui dit, « Non, moi je te suce, comme tu veux. » Pierre prend son porte-monnaie et l'ouvre. « Tu me donnes combien ?» Le jeune tend la main. Pierre se retire et sort un billet. « Donne !» Et d'un coup, le jeune lui arrache le porte-monnaie, le billet et le pousse. Puis, se sauve en courant. Pierre reprend son équilibre. Voit le jeune qui court, lui court après. Dans la rue, il crie « Ouvre-le, ouvre-le, arrêtez-le » Les gens le laissent passer. Le jeune a pris de l'avance. Pierre n'arrive pas à le rattraper. « Ouvre-le, ouvre-le, arrêtez-le » Personne ne le fait. Et on le laisse passer. Pierre court, court, de plus en plus vite. Mais il est épuisé. Au bout d'un moment, le jeune tourne une rue. Lorsque Pierre arrive en courant, il a tourné la rue. La rue est déserte. Il a dû entrer dans une allée se cacher. Mais laquelle? À moins, Pierre sait que la rue donne sur le quai. Il a une allée. Il a dû aller là-bas retrouver ses congénères. Alors il court jusqu'au quai. Arrive vers les quais. Descend. Il descend sur la berge. Personne. Il se trouve au bord de la berge. Un pas assez lourd. Essoufflé. Épuisé. Démoralisé. Comme celle-là. Exploiter, voler, chantage, pas d'amour. À quoi bon vivre? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Je suis maudit. Je ne ferai jamais comme tout le monde. C'est ma punition. J'aime. Sera toujours interdit. On m'a dépouillé de mes désirs. On me dépouille de mon argent. Que dois-je faire? Je suis à bout. Et regarde où il est et dit: je suis au bord. Le médecin, le destin m'a mené au bord de ma route. Un pas, deux, et je suis de l'autre côté. Il regarde. Derrière lui, voit le chemin qui monte jusqu'au-dessus des quais. Regarde droit devant lui. Fais un pas. Deux pas. Ne perds pas tout à fait pied. Il est obligé de marcher un peu dans l'eau et de glisser. Il a la force, le courage. Le courage. De ne pas respirer. Et... il coule. L'eau est trouble. Il n'y voit. Il y voit de plus en plus noir. L'autre entre dans ses narines, ses oreilles, les yeux. Il manque de souffle. Aspire. Fait entrer de l'eau dans sa bouche. Il a un goût désagréable. Il continue à couler. Puis, sans ses poumons se gonfler, a l'impression d'étouffer. Ses membres deviennent glacés, ils ne répondent plus, ils continuent à couler. C'est le trou noir. Deux jours plus tard, on a retrouvé le corps qui était remonté. Le temps passe, Jules et Marie sont là, ils ont perdu leur enfant. Albert, ils n'ont pas de nouvelles de lui et se disent qu'ils ne le verront plus. Ils sont là, vivent ensemble sans joie. Jules est plus calme, mais il regarde toujours les jeunes gens dans les rues. Il se dit que jamais il ne pourra ou osera en toucher un, être aimé par un de ces belles et faibles. Le temps passe. Jules a 54 ans. Lui et sa femme ont loué pour l'été une petite villa à Deauville. Une maison au bord de la mer, posée sur un rocher. Elle est à la fin du 19e, grande maison grise de deux étages, avec un petit parc sur le devant et un jardin anglais sur l'arrière. Ils ont amené avec eux leur domestique. Jules est devenu un écrivain célèbre, très lu dans le monde entier. Il ne professe plus, mais fait des conférences dans des universités où il est invité. Sa femme est très fière de ce qu'il est devenu et l'accompagne dans tous ses voyages. La renommée de son mari lui fait passer ses faiblesses et sa vie pas très heureuse dans l'intimité. La perte de ses enfants l'a fait s'accrocher à son mari. C'est la seule chose qui lui reste. Ses parents sont morts. Elle s'accroche à lui comme par devoir et parce que sa vie n'a rien d'autre. Donc cet été, ils ont décidé de passer un peu de bon temps et de louer cette maison. Passe sa journée calmement en promenade ou se repose sur la plage ou dans le jardin. Les jours passent. Une maison qui est presque semblable à l'or à côté de chez eux est habitée par un vieux couple, les Romains. Ils sont tous deux grands, minces, des cheveux blancs, mais toujours habillés de blanc. Lorsque Jules et sa femme les rencontrent, ils se font un petit salut amical et se disent un petit bonjour. Un après-midi, avant d'entrer chez lui, après sa promenade, ils voient leurs voisins qui rentrent chez eux aussi. Ils sont accompagnés d'un jeune homme grand, mince, châtain, le visage un peu osseux, avec de grands yeux. Il a un côté charmant, habillé de costume blanc. Monsieur Romain dit à Jules, « Je vous présente mon petit-fils, qui vient passer les vacances avec nous. » Jules fait, « Enchanté, monsieur Romain lui dit, il s'appelle Johannes. » Monsieur, jeune homme, et chacun entre chez eux. Sortant pour faire une petite promenade pendant que Marie prépare le déjeuner, ils tombent nez à nez sur Johannes. Jeune homme, monsieur bonjour, mon grand-père m'a dit que vous étiez le célèbre écrivain Jules Beaumandin. Jules rougit et lui dit, oui mais célèbre, j'ai lu tous vos livres, vous savez. Ce que j'aime, c'est ce que vous écrivez, c'est cette ambiance très particulière où les gens ne sont pas vraiment ce qu'ils sont. Je vous remercie. Jules est gêné, s'apprête à le quitter. Johannes lui demande, vous allez où?
Où je vais? Ben je vais me promener au bord de la mer, ou plutôt sur le chemin qui longe la mer.
Je peux venir avec vous?
Si vous voulez, mais ça vous fait pas peur de vous ennuyer avec un vieux monsieur comme moi?
Ah non, surtout pas un homme comme vous.
Alors, allons-y.
Et il part. Prennent le chemin et marchent l'un à côté de l'autre. Jules est gêné, car le jeune est vraiment très charmant. Il a peur qu'il voie son trouble. Le jeune semble détendu et parle à Johannes que c'était une personne de son âge. Tout en marchant, il lui parle de ses livres. Mon préféré, c'est celui qui se passe à Venise. Il lui dit, vous semblez plus jeune que je le pensais.
Merci.
Est-ce que vous pensez que nous allons avoir la guerre?
Malheureusement, tout le monde le veut. Surtout ce Clémenceau.
Ben, je partirai peut-être me battre moi aussi. Je le regarde bien et lui dit,
quelle horreur!
Johannes sourit et lui demande « Est-ce que ça vous gênerait d'avoir un ami de mon âge ?»«
Non, pas du tout. »«
Vous trompez, vous ne trouvez pas trop niais ?»«
Non, non, pas du tout. »
Et physiquement, je le regarde bien et lui dis
« Vous êtes très bien. »
Johannes sourit et lui dit « Alors, nous pourrons devenir amis ?»«
Oui, bien sûr. »
Dit Jules gêné, regarde sa montre et dit
« Ma femme doit m'attendre, il faut que je rentre. »
Et il s'en retourne. Avant de se quitter, le jeune lui demande. Demain, nous nous reverrons à la même heure. Jules est gêné.
Jeune homme.
Johannes lui dit. Vous m'avez dit que cela ne vous gênait pas de m'avoir comme ami.
Je lui dis. Bon, alors, à demain.
Et il entre chez lui. De cette rencontre, il fait des efforts pour ne pas y penser. Il a peur que ça se termine comme d'habitude. Il est tellement gêné et sympathique. Il est tellement gentil et sympathique, ce jeune garçon. Le lendemain, il le retrouve devant chez lui. Le jeune lui dit « Bonjour ».
« Bonjour ».
Ils s'en vont prendre le même chemin. Le jeune, tout à coup, se pince son cou pour l'embrasser. Jim n'a pas le temps de se retirer. Il a reçu le baiser. Johannes, surpris, lui dit : ne sommes-nous pas amis ? Vous n'êtes pas content de me voir ? Oui, bien sûr. Et se met en route. Johannes lui dit : j'ai pensé arriver à vous cette nuit. Cela vous fait plaisir ?
Oui, bien sûr.
Je suis heureux d'avoir fait votre connaissance. D'habitude, les personnes adultes ne font pas attention à moi. Il prend la main de Jules et la fait balancer. Je lui demande :
qu'est-ce que vous faites ?
Le jeune sourit et lui dit : rien. Qu'est-ce que vous pensez des femmes ?
Elles sont gentilles et belles.
Moi, j'y trouve idiote.
Parce que tu es jeune ?
Non, pas du tout. J'aime pas être à côté d'elles. Je lui dis :
tu es presque un enfant.
Non, pas du tout, tenez. Et, avec la main qu'il tient, Jules la met entre ses jambes. Jules rougit et retire sa main et lui dit :
cela ne se fait pas. Ce sont les bébés qui font ça.
Jules lui dit : pourquoi ?
Parce que c'est comme ça.
Et si c'est moi, je veux. Nous sommes amis, n'est-ce pas ? Je pense à vous constamment. Prend la main de Jules et lui dit :
venez, laissez-vous faire.
Mais c'est moi qui vous le demande. Johannes le balle en bas du chemin vers les rochers, là caché du monde. Le jeune se pend au cou de Jules. Il lui caresse la nuque en lui disant :
vous êtes beau, j'ai envie que vous m'aimiez.
Jules a la tête qui tourne, ne sait plus où il en est. Il voit la tête, la charmante tête de Johannes se pencher vers lui. Jules lui prend les lèvres et l'embrasse.
J'ai jamais connu un tel plaisir.
Ses lèvres, l'odeur de sa peau, sa douceur. Il le caresse sur tout le corps, par-dessus ses vêtements. Et cela n'a aucune importance. Le jeune homme s'abandonne. Jules connaît enfin le plaisir suprême et se dit que maintenant qu'il est connu, qu'il a fait tout ça, maintenant il peut mourir. Il sait ce que c'est que le bonheur. Leurs baisers durs, durs, leurs baisers sont mouillés et brûlants. Il boit, il reçoit cette vie de 17 ans. Jules bande, il sent que le jeune aussi. Puis leurs baisers se sont arrêtés. Johannes lui a dit : tu es content ? Il sourit et lui caresse ses cheveux.
Mon petit ange.
Il soupire, regarde sa montre. Malheureusement, il nous faut partir. Il remonte les pentes en lancée. Johannes a mis sa tête contre la poitrine de Jules. Arrivé vers la maison, Jules lui dit :
il faut nous tenir correctement.
Ils se mettent en marche, l'un près de l'autre. Johannes lui demande :
nous nous reverrons demain ?
Oui.
Et Jules lui sourit avant d'entrer chez lui. Il a la tête qui lui tourne. Un tel bonheur comme ça, à son âge ? Va s'enfermer dans sa chambre pour mieux y pouvoir penser. Il dit à sa femme qui est fatiguée et reste toute la journée dans sa chambre. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment un mensonge. L'émotion lui a donné des palpitations et
une gêne étrange dans les membres. Lendemain, dans la matinée, alors qu'il est à son bureau, à lire le courrier, on a frappé à la porte. Entrez. C'est la bonne. Monsieur, le jeune homme d'à côté aimerait vous parler. Je l'ai surpris. Faites-le entrer ici. La bonne fait entrer Johannes. Jules s'approche de lui. Bonjour, tu as quelque chose à me dire? Il voit qu'il est tout triste. Je suis venu vous dire au revoir. Je dois prendre le train pour Paris. Mes parents veulent que je rentre. Il paraît que la guerre est imminente. Jules a un choc. Il tremble. Tu pars? Oui, dans une heure. Et je suis venu vous dire au revoir. Jules ne sait quoi dire. Il est très triste et tremble de plus en plus. Joannelle est très pâle et triste. Je crois que je vais bientôt aller me battre. Ne dis pas cela, c'est trop triste. Tu pars bientôt. Oui, dans moins d'une heure. J'étais très heureux de vous connaître. Jules a envie de pleurer. Il est comme paralysé. Il aimerait le prendre dans ses bras, mais ne peut pas, n'ose pas. Le jeune baisse la tête et lui dit « Bon, eh bien, au revoir, monsieur. » Jules ne peut rien dire. Le jeune se retourne pour quitter la pièce. Jules a envie de l'arrêter, d'aller vers lui, de lui courir, de le baiser, de lui dire qu'il l'aime, lui hurler son amour, le baiser. Mais quelque chose l'empêche de bouger, de parler. Il est comme paralysé, paralysé par l'amour peut-être. Le jeune ouvre la porte et sort. Jules voit tout tourner. Des bourdonnements d'oreilles. Le souffle court. Il a chaud à la tête. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Il ne peut pas parler. Le trou noir.
Et il tombe.
Il reste sans pouvoir bouger quelques minutes, avec de plus en plus de difficultés pour respirer. Et puis, plus rien. 2 heures plus tard, la bonne l'a retrouvée à terre, sans connaissance. À cause de la guerre, on a préféré l'enterrer à Douville, avec l'autorisation de la mairie. Épuisée est entrée à Lyon. Elle a été prise dans des tas de formalités, de voir des notaires, avocats, des hommes d'affaires, de recevoir les condoléances des familiers, des officiels du monde entier. Une avenue portera le nom des Beaumandins après la guerre, a promis le maire de Lyon. Le gouvernement français a donné à titre posthume la Légion d'honneur. Après toutes ces obligations, ses réunions officielles, ses discours, etc., Marie s'est sentie vidée, seule, pour la première fois de sa vie, seule. Elle se sent mal à l'aise dans cette grande maison à Lyon. Un jour, elle décide de changer de vie.
qu'elle a assez donné au bon mandat. Elle vend tous ses biens et avec une belle rente, elle va vivre à Monte-Carlo. Enfin le soleil, adieu le brouillard, la grisaille de Lyon. Vive la mer, les fleurs, le soleil. Elle s'achètera une belle villa au bord de la mer. Toutes ces idées lui sont venues d'un coup. Dans sa solitude, pour la première fois, elle n'avait pas pensé à une autre personne qu'elle-même. Alors elle s'est mise à rêver de ce qu'elle aimerait faire. Et d'un coup, elle a réalisé qu'elle était libre de le faire. Ce n'est pas qu'elle n'aime plus sa famille qu'elle a eue. Ses enfants morts et son mari, non. Mais elle a assez donné. Elle existe elle aussi. Et garde dans son corps tout ça tout en voulant vivre. Et puis la vie n'a pas été facile pour elle. Un mari incestueux, immoral, des enfants difficiles et incompréhensibles, ça ne lui a pas été facile d'être une mère. Maintenant, elle veut vivre tranquille. Elle a tout vendu, acheté sa villa et préparé son déménagement. L'appartement se vide, il y a des caisses de partout. Un matin, qu'elle est au milieu de ses caisses au salon, la bonne lui annonce la venue d'Apolline. Apolline arrive tout sourire vers elle en tenue de voyage écossaise. Elle est ravissante. Elles s'embrassent toutes les deux et Marie lui dit « Pardonne-moi de te recevoir comme ça, mais je déménage. Ne te fais pas de soucis, ma chérie. Moi aussi, je pars. Tu pars ? Oui. » Après la mise en maison de Charles-André qui était devenu important, j'ai fait la connaissance d'un lord anglais qui vit en Amérique, en Californie. Il fait des affaires, du cinématographe ou quelque chose comme ça. Il m'emmène avec moi, nous nous marierons là-bas. Marie lui dit, « J'en suis très heureuse pour toi, ma chérie. Et tu pars quand ?»« Tout de suite, dans une heure. » Ça s'est décidé tellement vite. Tu connais les Américains, avec eux, ça ne traîne pas. Elle regarde sa montre et lui dit, « D'ailleurs, il faut que je parte tout de suite. Déjà, et oui, je t'écrirai de Monte-Carlo. » Elle s'embrasse. Et Apolline la quitte. Marie ouvre une malle dans le grenier. Il y a des vêtements d'hommes, sales déchirés, des chaussures pleines de boue. Elle regarde tout ça, intriguée. Qu'est-ce que tout ça? Ces vêtements, dans un piètre état. Il y a même une robe rouge. Mais c'est une de mes robes. Et dans quel état? Chaussures de femme. Perruque, tout au milieu du linge, un rasoir, un grand rasoir tout usé et taché. À quoi bien peut bien appartenir tout ça? Il fouille dans les poches et trouve dans une veste un portefeuille. Voit des papiers, des factures, des notes au nom de Jules. C'était à Jules tout ça? Qu'est-ce que ce mystère? Il touche ses vêtements, le rasoir. Il vaut mieux que je ne le sache pas. Et elle remêle tout dans la malle. Je la ferai porter aux ordures. Elle a l'impression d'avoir touché quelque chose de tabou, de secret. Elle ne veut pas en savoir plus.
Fini la ronde, tout comme moi, vous l'avez vu. C'est l'histoire de tout le monde. Je ne vous en dirai pas plus.
Et la
Radio Canu vous a présenté. Fin de... Lorsque j'ai écrit mon histoire, je l'ai fini le 16-1-97. Et j'ai fini d'enregistrer l'histoire le 14 juillet 97. J'ai eu... Ça m'a fait 44 heures d'émission. Temps d'enregistrement, 200 heures. De préparation, 200 heures. D'écriture, 150 heures. De pages écrites, 1300 pages. De bandes magnétiques enregistrées, 1000 mètres. Fini le 14 juillet 1997. J'ai accéléré le déroulement de l'histoire parce que j'étais très fatigué. J'en avais marre. Alors j'ai supprimé des sons et résumé des scènes au lieu de les mimer. J'avais hâte de finir. Et puis, j'ai eu des tas d'ennuis. Des ennuis techniques. Deux micros morts. Trois casques. Un enregistreur. Des cassettes. Audio de mauvais état. Etc. Etc. Et puis en plus de ça, j'avais peur, c'est qu'on me dérange, qu'on m'importune lorsque j'étais en train d'enregistrer. Certains jours, j'ai enregistré de 6h du matin à 23h. Cette émission que vous avez entendue, je l'avais prévue à présenter à la radio sur cassette audio. Alors, comme pour des raisons politiquement correctes, je n'ai pas pu le faire. Ce qui fait que, au lieu que ça fasse 44 cassettes, ça m'a fait 64 mini-disques enregistrés, et ce qui fait 32 semaines. D'enregistrement. Le délire de la création, j'ai supprimé tout ce qui était politiquement incorrect et des scènes de sexe un petit peu trop dures, trop fortes. Je voulais dire, c'est que j'ai créé cette histoire, je l'ai inventée, c'est après avoir lu la vie de Thomas Mann, la vie de la famille Thomas Mann. Ça m'a donné envie d'écrire, enfin de partir sur la base de leur vie pour écrire cette histoire. Bien entendu, après j'ai rajouté des choses à moi, mais c'était à peu près basé sur la vie de Thomas Mann. Alors maintenant, je me retrouvais dans quelque chose d'un peu précaire, d'un peu ennuyé parce que pour finir la semaine, la 32e semaine, et ben l'histoire est finie, donc il faut que je trouve autre chose. Je m'en vais certainement vous passer une petite histoire pour finir la semaine qui n'a rien à voir avec celle-là. Je me suis acheté un ordinateur portable avec le logiciel Dragon. Malheureusement, ce logiciel a des difficultés à reconnaître ma voix et lorsque la ventilation se met en route, il marque n'importe quoi. Hier, j'ai travaillé de 8h30 à 19h30. Malheureusement, lorsque j'ai fini, tout ce que j'avais écrit a disparu. J'étais furieux et j'avais envie de tout laisser tomber. Aujourd'hui, je vais travailler que quelques heures. C'est beaucoup trop pénible de travailler une journée complète. En plus d'écrire, j'ai des difficultés à mettre sur CD ce que j'ai déjà écrit. J'ai fini d'enregistrer Le garçon aux yeux verts. Et pour moi, c'est ma meilleure histoire. Ça m'a donné envie d'écrire d'autres histoires pour les enfants. Mais pour cela, il faut beaucoup de talent que je n'ai pas.
dans l'ordinateur portable, j'ai rajouté des images, des décors, soit dessinés par moi, soit des photos ou des dessins qui me serviront pour mes vidéos, pour faire mes trucages. Parce que c'est très difficile de faire de chromaquet à cause de l'éclairage, tandis que là, j'aurai plus de problème d'éclairage puisque ce sera avec l'ordinateur, le bleu ordinateur. J'ai vu à la télévision le documentaire sur Charles de Gaulle, intime. Pour moi, c'est le dernier grand homme et le seul qui avait le sens du devoir, la noblesse. Tous les autres n'ont été que des filous, à part Pompidou. Maintenant, je vais vous parler de toutes les émissions que j'ai préparées durant toutes ces années. Je vous parlerai que des émissions à épisodes et que des émissions qui sont sur mini-disc. Violence et crépuscule. 80 semaines. C'est l'histoire qui parle du monde, de la fin du monde occidental. Imani. 140 semaines. Parle d'un monde où la technologie est de partout. L'élu. 346 semaines. Parle d'une secte qui entre dans une multinationale pour s'emparer du pouvoir du monde. La spirale de verre. 156 semaines. Raconte l'histoire de deux jeunes gens qui n'ont pas le sens de la morale. La plante du diable. 120 semaines. Raconte l'amitié de deux jeunes gens qui sont pris dans la tourmente multinationale. Merveilleux Monsieur Bébé. 120 semaines. Raconte l'histoire d'un jeune homme qui vit de ses charmes. Alors là... Ah, le sang des dieux, parce que c'était mon ordinateur marqué, le sens des jeux. Alors, je me demandais ce que c'était, j'avais jamais écrit une histoire là-dedans. Non, c'est le sang des dieux. 84 semaines, raconte l'histoire de plusieurs élus dont l'un a un sang particulier. Il est poursuivi par les autres à cause de son sang. Caire, 84 semaines, raconte l'histoire modernisée d'Achille. La liberté des dieux, 68 semaines, raconte l'histoire de personnes qui ne se rendent compte que le pouvoir ce n'est pas tout dans la vie et que la liberté est beaucoup plus importante que le reste. Toutes ces histoires font l'ensemble, sont un ensemble qui se passe à la même époque. Et ce sont des histoires où les personnages se croisent entre histoires. Les personnages secondaires deviennent des personnages principaux pour d'autres histoires, les personnages principaux deviennent secondaires, et même certains figurants deviennent des personnages principaux, etc., etc. Maintenant, ce sont des histoires qui sont à part, cet ensemble. Sonner le vent, 64 semaines, raconte l'histoire d'un enfant qui est mis dans une famille comme un coucou. Alors, je fais marquer « semer le vent », c'est marqué « se solder le plan ». C'est Dragon qui marque comme ça. Film intérieur, 48 semaines, raconte l'histoire d'un jeune homme qui se rend compte que l'art, le cinéma, pour lui, est beaucoup plus fort que la vie réelle. Entre la lune et moi, 30 semaines. C'est ma vie sublimée, pour ainsi dire. Et j'ai appelé ça entre la lune et moi parce que j'écrivais ça la nuit.
Le plaisir, 22 semaines. C'est l'histoire d'une personne qui cherche le plaisir absolu. Un ange passe. 110 semaines. C'est l'histoire d'un jeune homme qui vit dans des paradis artificiels comme Jean Cocteau. Les miroirs brisés. 34 semaines. C'est l'histoire d'une fille qui a perdu la mémoire. Le monde de Claire. Une semaine. C'est l'histoire d'un homme qui rencontre une femme fatale et qui réussit à rentrer dans son monde. La lumière. 14 semaines. C'est l'histoire d'un jeune homme qui recherche le grand amour, l'absolu. Passion intérieure. 16 semaines. C'est l'histoire d'un jeune homme qui, durant toute sa vie, tombe amoureux d'une image. Qu'est-ce qui fait courir Jean-Denis? 26 semaines. C'est l'histoire de deux enfants qui rêvent de partir à Tahiti. Ben, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est un résumé en gros comme ça. Le garçon aux yeux verts, 56 semaines, raconte l'histoire d'un jeune garçon qui se laisse prendre par la drogue. J'ai aussi écrit beaucoup d'autres histoires, dont vous... des histoires, des petites histoires et des histoires à épisodes, mais je n'ai pas tous les noms. Ce sont des petites nouvelles que j'ai écrites, il y en a peut-être des milliers de titres. C'est assez important. Alors maintenant, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Parce qu'il me reste encore un petit peu. La démocratie a bloqué le mélange des cloches, le flux de sang nouveau. Elle a bloqué la société. Et elle s'est figée et c'est plus figée que du temps de l'Ancien Régime. Même du temps du pouvoir absolu, elle n'était pas aussi figée que maintenant. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.